Bonjour à tous. Je pense que vous avez eu un week-end tranquille, reposant. Après la dose et l'overdose de la semaine dernière. Bon, est-ce que vous avez des questions ? Bon, en tout cas, je ne vois pas que ça vous perturbe outre mesure. Alors, aujourd'hui, c'est le septième cours. Le titre global de ces cours, c'est « Comment la révélation atteint-elle ses destinataires ?» Parce que maintenant, on a parlé plutôt du contenu objectif de cette révélation. Maintenant, c'est un peu avant d'arriver au destinataire et voir quelle est sa situation, etc. Comment ? Par quel canal ? Ou par quel canal, elle arrive à destination. Un premier point, c'est les témoignages intérieurs de l'Esprit-Saint. Deuxièmement, les témoins, les apôtres, l'Église, les rôles des apôtres, les rôles de l'Église. Ensuite, depuis les temps des apôtres, même si cette année a été une année de sécheresse, il a beaucoup plu depuis. Ensuite, un point quand même qui est très glissant, si l'on peut dire, la tradition. Un mot qui apparaît à toutes les sauces et à tous les plats. Qu'est-ce que c'est cette histoire de la tradition ? Ensuite, les rapports écriture-tradition. Et finalement, quelques mots rapidissimes sur le rôle du magistère, qui est un chapeau très très large, sous lequel on peut mettre beaucoup de choses, et parfois du n'importe quoi. Bon. Tout d'abord donc, les témoignages intérieurs de l'Esprit-Saint. Du point de vue de la foi chrétienne, l'action de Dieu auprès de l'homme est attribuée à l'Esprit-Saint. Nous avons quelques références très classiques et très claires. Dans le quatrième évangile, lequel quatrième évangile met ses paroles dans la bouche de Jésus, donc semble être donc très important pour cette œuvre, et qui permettent de voir l'Esprit à l'œuvre. Pour reconnaître le Christ, et pour avancer dans la vie du croyant. L'Esprit-Saint donc est à l'œuvre et à la manœuvre, si l'on peut dire, dans la reconnaissance que le croyant fait du Christ et en même temps pour l'accompagner dans le chemin. Je cite Jean 14, 25-26. « Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurai auprès de vous. » Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Et après, en 16, 12 à 15, j'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi, et c'est pourquoi je dis qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Donc là, on voit effectivement une esquisse, si l'on peut dire, des rapports de la Trinité. C'est donc à la lumière de l'Esprit, il vous enseignera tout, que cette révélation subjective, c'est-à-dire de chacun de nous, arrive à se concrétiser. Comme tout dans la vie des fois, on constate une progression dans la connaissance et dans la compréhension des réalités. Et en ce qui concerne l'Esprit Saint aussi. L'Esprit Saint n'est pas très présent dans l'Ancien Testament. Il est très connu du premier récit de la création. Quand on trouve la phrase célèbre, l'Esprit des dieux planait sur les eaux. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé. Pendant la plus grande partie de l'Ancien Testament, du point de vue chronologique, l'Esprit était considéré comme la présence des dieux auprès du roi. Celui-ci donc, comme on l'avait vu, était le lieutenant des dieux auprès de son peuple, pour que son peuple trouve le bonheur et la paix et tout ça. Et cette relation particulière du lieutenant, le roi et Dieu, était concrétisée, matérialisée, si l'on peut dire, par le rite de la consécration, dans lequel l'onction jouait un rôle majeur. Et cette onction était considérée comme le signe de la présence de l'Esprit dans le roi. Prenons par exemple un texte classique du premier livre, enfin du premier Isaïe, au chapitre 11, versets 1 à 9, un texte que vous connaissez parce qu'on nous le sort dans la liturgie plusieurs fois. Ce texte qui est une sorte de résumé des fonctions du roi, de la titulature du roi. Et c'est un texte dans lequel la présence de l'Esprit apparaît de façon presque obsédante. Je vous la lis tout de suite. Isaïe 11. À 9. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit de Dieu, Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de vaillance, Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux. Il ne se prononcera pas d'après ce qu'il entend ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité, le baudrier de ses reins. Ça est reconnu éventuellement les célèbres dons de l'Esprit Saint, qu'on nous les ressort évidemment, forcément, les jours de la Pentecôte, avec cette petite nuance. On vous dit les sept dons de l'Esprit Saint. Sauf que dans Isaïe, il n'y a que six. Alors, comme le chiffre est six, ce n'est pas très, très classe, il fallait mettre sept. Donc, on a doublé l'un d'eux pour en faire sept. Le chiffre sept étant toujours plus. Sept sacrements, les sept dons du Saint-Esprit, les sept. Tout ce que vous voulez. Comment?
Excusez-moi,
Oui.
là, il prévoit un roi
Oui.
ou il a déjà la vision de Jésus?
Alors, il prévoit un roi, c'est-à-dire, c'est un texte qui se situe dans la ligne de l'espérance messianique dont on avait parlé. Et ici, enfin, étant donné qu'il croit toujours, Isaïe, dans la royauté, même s'il critique vertement les rois, mais il imagine l'avenir heureux de son peuple à partir de la figure et la fonction du roi. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut avoir un rejeton de la famille de David. Je sais, c'est le père de David. Donc il va avoir un renouveau. À radice, comme on dit en latin. C'est-à-dire de la base. Mais ça sera un roi. Mais alors, vous me dites, est-ce qu'il pensait au petit Jésus? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un de. Ben, comment voulez-vous qu'il pense au petit Jésus qui devait paraître 7 siècles plus tard? Et,
Non, mais on dirait.
ben, on dirait pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ces textes pour parler de Jésus, nous. C'est-à-dire que le chemin est l'inverse. C'est-à-dire, nous, chrétiens, on trouve que Jésus est le Messie. Et c'est vrai que le Messie, comme dans ces textes, était annoncé un Messie, mais sans CV, c'est-à-dire sans carte d'identité ni passeport. Un Messie qui ferait ceci, ceci, cela, comme tout Messie qui se respecte, comme tout roi qui se respecte. Et nous disons, ces Messies que le prophète avait annoncé, c'est Jésus, c'est nous qui faisons l'identification.
Dire, puisqu'il ne connaissait pas, il n'avait pas la révélation de Jésus.
Mais
Donc,
justement.
il n'a pas parlé en disant, en pensant à Jésus, mais l'inverse n'est pas vrai. Non, mais, enfin, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il aurait, ce n'est certainement pas Jésus, parce qu'il a dit telle et telle chose qui font que ça ne peut pas être Jésus. C'est-à-dire que lui, il ne pouvait pas prévoir que ça serait Jésus, puisqu'il n'avait pas la
Qu'est-ce Jésus
parole.
de
Et
Nazareth, oui.
inversement, on ne peut pas déduire de ce que vous avez dit, mon père, que lui, Isaïe, pensait que il n'y a pas d'élément contre l'idée que ce soit Jésus.
Ah ben, évidemment, évidemment. Il y a, non, mais, enfin, ça dépend, effectivement. C'est qu'on entend par prophète. Les prophètes, ce n'est pas quelqu'un qui prédit. Qui prédit du genre, aujourd'hui, 26 novembre 2018, Jésus a sûrement dit, pas l'autre, quand il va sortir du 3 place Saint-Thomas-d'Aquin, il va avoir une tuile qui lui tombe sur la gueule, il va tomber raide sec. À 16h03. Ça ne relève pas du prophète. C'est encore plus croustillant, si vous voulez, le célèbre oracle de l'Emmanuel. la jeune femme est enceinte et donnera naissance à un enfant, et elle le nommera Emmanuel, etc. Bon, mais et là, c'est encore plus tordu. Enfin, dans le sens, c'est... Si vous prenez, par exemple, la Bible liturgique publiée avec fanfare et tout le tralala par les conférences épiscopales, que ce soit la française ou l'espagnole, dans ces textes, comment est-ce qu'ils sont publiés? Ils sont publiés, voici que la Vierge est enceinte et donnera naissance à un enfant qui s'appellera Emmanuel, etc. Mais là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, je vous explique pourquoi. Parce que, dans l'introduction, ils disent qu'on va traduire l'Ancien Testament à partir de textes sources, c'est-à-dire des langues originales, c'est-à-dire l'hébreu. Sauf que là, en Isaïe 7, 14, l'oracle de l'Emmanuel, le texte source dit la jeune femme. Et là, il n'y a aucun doute, d'aucun genre. Pourquoi est-ce qu'ils sont traduits comme ça? Parce que la traduction grecque des Septante, elle, déjà, avait traduit par vierge. C'est pour ça que Matthieu et Luc, etc., utilisent le texte grec et pas l'hébreu, parce que leur démonstration à partir de l'hébreu, ça ne marcherait pas. Vous voyez ou pas?
Ouais.
Est-ce que vous voulez une Doliprane 1000?
Non. La jeune fille peut être vierge. Hein. Moi, je vois pas où est la contradiction.
Bah, la contradiction veut dire, et tout simplement, que quand vous dites la vierge, vous dites quelque chose d'extrêmement précis.
Oui, d'accord.
On dit la Sainte Vierge. Aussi. On pense à la Sainte Vierge.
C'est-à-dire que quand vous dites la jeune femme, bah, que la jeune femme soit enceinte et qu'il donne naissance à un enfant, ça va.
Non, mais mon père, si malhonnêteté il y avait, ça serait la Septante qui serait malhonnête. Non,
la malhonnêteté réside dans le fait de dire qu'on va traduire du texte souche, ou source, pardon, et là, et uniquement là, on va chez les Grecs, si vous voulez. Et on vous met une petite note disant grec. Alors, qui est capable de comprendre cette histoire des Grecs? Il fallait mettre trois lignes pour dire ce qu'ils ont fait. Mais je vous signale, par exemple, en France, je ne sais pas s'il y a eu des remous, mais les groupes des traducteurs pour la Bible liturgique en espagnol, dont je faisais partie, quand on a vu ça, surtout le responsable de la traduction pour l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est d'histoire? Il a même fait un communiqué pour dire « Je suis responsable du texte, enfin de la traduction que je présentais à la conférence épiscopale. » Ce qu'ils ont fait après, c'est de leur responsabilité, pas de la nôtre. Autrement dit, un traducteur moyennement honnête ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il dit « Si ça a été fait, c'est pas nous. Si vous voulez demander des comptes, allez voir la conférence épiscopale et si elle a quelque chose à dire, bon, on va dire oui, parce que la tradition, etc. » Mais à ce moment-là, on fait une petite note de deux lignes et on explique que le grec a traduit par vierge parce qu'à cette époque, déjà, il y avait un courant qui voyait dans le Messie un être merveilleux, je ne sais pas quoi, mais d'autant plus que cette histoire de la naissance d'une vierge, c'est pas propre du Nouveau Testament. C'était quoi, c'est l'empereur Auguste, etc. Il y a une tradition, si vous voulez, qui présente les choses pareilles. Donc, la question de la naissance virginale, ce n'est pas une question des gynécologues. C'est une question, c'est une manière de dire que cet enfant est particulier et qu'il vient de Dieu. De la même façon qu'Isaac. Si vous lisez Genèse 21, je vous le lis parce que je ne suis pas sûr. Le chapitre 21 du livre de la Genèse. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il agit envers elle selon sa parole. Elle devint enceinte et donna un fils à Abraham en sa vieillesse à la date que Dieu lui avait dite. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né. C'est lui que Sarah lui avait enfanté. Il circoncise son fils Isaac, etc. Bon, dans ce texte, Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Le fils lui a été donné, le fils qui lui est né. Enfin, il n'est que le destinataire de ses fils. Par l'intermédiaire de Sarah, ben c'est Dieu qui est à la manœuvre. Bon, conclusion. Qu'est-ce qui est plus difficile à Dieu, à vous de décider, de faire qu'une vieille de 100 ans ait un enfant, ou bien qu'une vierge ait un enfant? Les paris sont ouverts, hein? Au choix. Bon, dans les deux cas, une fois et plus, ce n'est pas une question de gynécologie. C'est une question des manières de dire qu'effectivement, cet enfant est assez particulier. Et que la source de cet enfant, c'est Dieu. C'est tout.
Ça nous explique bien, Sacha.
Comment ?
Je dis ça explique bien que ce n'est pas une affaire gynécologique.
Ah, mais oui, justement. Mais non, moi, je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez, les cahiers Évangiles. C'est une publication qui fonctionne déjà depuis 50 ans. Et le numéro 18, je crois, c'était sur les récits de l'enfance. Et celui qui l'avait fait, c'était un exégète extrêmement puissant. Il est mort déjà. Charles Perrault. Et il était très particulier, etc. Il nous racontait que quand il était en train de faire ses cahiers chez lui, etc., à un moment, il a eu un geste un peu brusque, et tous ses papiers étaient par terre. Donc il s'est mis à quatre pattes pour retrouver tous ses papiers, et à un moment, il tombe sur une feuille, et il lit « La contraception de Marie ». Qu'est-ce que j'ai écrit cette histoire ? Bon, en fait, c'était un lapsus qu'il avait fait, parce que, comme à cette époque, donc en 75, 74, on était en plein histoire de contraception de ceci et de cela, au lieu de mettre la conception virginale, il avait mis la contraception de Marie. Il nous a fait rire pendant longtemps. Voilà, donc, et c'est lui qui disait, c'est pas une question. La virginité, c'est pas une question de gynécologie. Ça n'a rien à voir.
C'est pour ça qu'elle a très bien pu avoir d'autres enfants, on s'en fiche.
Tout à fait. Tout à fait. Bien. Donc, l'Esprit Saint, bon, on les met au travail, l'Ancien Testament, auprès du roi. Pour les prophètes, parce que nous, instinctivement, on associe l'Esprit Saint à l'activité prophétique. Il inspire les prophètes, etc. Ben, même dans le credo, il a parlé par les prophètes, l'Esprit Saint. Il a parlé par les prophètes. Donc, mais, dans la Bible, je suis désolé pour les pères du concile, c'est par lesquels qui ont trouver cette formule, il a parlé par le prophète. Il y en a deux prophètes qui parlent ou qui mettent l'Esprit Saint au travail quand il s'agit des prophètes. Ézéchiel, c'est celui qui l'utilise le plus. L'Esprit de Dieu entra en moi et mes filles voyager jusqu'à je ne sais pas où. Enfin bref, là c'est... Et puis aussi Joël, chapitre 3. C'est les deux. En dehors de ça, rien. Il faut attendre d'ailleurs le livre de la sagesse dont on a parlé la semaine dernière, qui est, comme je vous ai dit, très récent, de 50 avant Jésus-Christ. Il faut attendre donc le livre de la sagesse pour, au chapitre 9, dans la prière de Salomon qui demande à Dieu la sagesse, trouver l'équivalence entre le Saint-Esprit et la loi. Ah, pardon. Le Saint-Esprit et la sagesse. Donne-moi la sagesse qui ceci, qui cela, tarari, tarara. Et puis à la fin, donne-moi le Saint-Esprit parce que sans lui, je ne pourrais pas. Et effectivement, c'est exactement la même chose qu'il dit avant de la sagesse. Donc il y a de facto une adéquation entre le Saint-Esprit et la sagesse dans le livre de la sagesse. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, il n'est pas très présent dans les synoptiques. Un peu plus dans Luc, mais c'est Marc, Matthieu, sauf la dernière phrase de son évangile, sinon, pas trop. Alors, par contre, dans Jean et dans Paul, alors là, vous en avez la dose, ça compense. Il apparaît comme l'Esprit des dieux, voire l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire du Christ. Pour cela qu'à partir de Paul, surtout, et des gens, les deux, on peut entrevoir de façon un peu plus, un peu moins obscure, disons, les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que ce n'est pas d'une clarté biblique. La Bible, à propos, effectivement, de tout ça, reste un peu dans le flou. Mais c'est après, dans le premier siècle du christianisme, que les premiers chrétiens ont essayé de voir clair. Qui fait quoi, qui est qui. Le problème, c'est que quand on clarifie trop, on risque de figer. C'est un peu ce qui se passe avec tous les dogmes. Hein. Vous avez une question, vous essayez de répondre, et vous officialisez ces formulations, qui du coup devient intouchable, mais ce sont des formules figées. Bon, c'est mieux que rien, vous me direz, tout à fait, mais sachant qu'effectivement, elles doivent beaucoup à... au contexte et aux circonstances. Par exemple, le fait que toutes ces formules ont été faites à partir des concepts et catégories philosophiques et théologiques de l'époque. Donc, effectivement, pour les gens du 4e, 5e siècle, c'était clair, enfin, c'était clair jusqu'à un certain point. Par exemple, la question célèbre en christologie, dans notre façon de nous expliquer maintenant, on parle que le Christ Il a deux natures, la nature humaine et la nature divine, et une seule personne. Quand ça a été défini comme ça, évidemment, bon, disons, on a envoyé quelques mails à toutes les communautés de France et de Navarre pour dire quelle était la décision du Concile. Mais c'était la conception des natures et des personnes, ces concepts, pour les Éthiopiens de cette époque et pour d'autres Irakiens, disons, ça leur paraissait des Chinois purs. Du coup, ils ont dit, nous, là, on va dire qu'on a toujours une nature et puis point la ligne. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont restés monophysites. C'est-à-dire, les partisans, qu'en Christ, il n'y a qu'une seule nature. Tandis que nous, disons qu'il y en a deux. Oui.
Concernant le concept justement des deux natures, c'est, je crois, non, je ne connais pas très très bien, mais un des rares cas où ce ne sont pas les philosophes, donc les concepts philosophiques, et la nature existait bien sûr depuis bien longtemps, mais la notion d'hypostase qui a été utilisée dans ce cadre, c'est les chrétiens, je crois, qui ont inventé spécifiquement.
Oui.
Pour expliciter.
Mais.
Donc c'était un concept. Pas philosophique. C'était un concept philosophique inventé par les chrétiens.
Oui, mais pour ça, oui, oui, effectivement, il y a toujours un certain nombre d'accommodations au cas. Il n'y a pas une équivalence pure et dure entre les concepts philosophiques et puis la réalité qu'on traite. Il y a toujours des adaptations. Enfin, on adopte et on adapte. Ça, c'est la règle claire. Quels sont donc les outils dont l'Esprit Saint se sert pour nous transmettre, pour nous brancher dans la révélation ? Tout d'abord, les apôtres. Quand on parle d'apôtres, il faut sortir du chiffre magique 12. Parce que ça, c'est un concept, encore, enfin, une construction, l'histoire des 12, qui a été surtout forgée par Luc. Il a tout à fait le droit. Les 12 tribus d'Israël, tout ce que vous voulez. Mais apôtre veut dire envoyé. Paul, il s'est dit lui-même apôtre, mais Luc ne les met jamais dans la liste des apôtres, et en même temps, il ne lui donne jamais le titre d'apôtre à Paul. Parce que pour une raison très simple, pour Luc, il a forgé son concept, disant l'apôtre est celui qui a accompagné Jésus depuis le début. Bon, Paul, comme il n'a pas été, donc exclu. Et de ce point de vue, dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 1 et 2, étant donné que parmi ces 12, il y en avait un qui avait pris le mauvais chemin, il fallait le remplacer. Et il a dit clairement, on va tirer au sort, parce que le tirage au sort est l'expression du choix du vin. Parmi ceux qui nous ont accompagnés depuis les débuts, qui va être coiffé du bonnet apôtre. Et puis ça tombe sur Matthias, à travers. Mais, et le concept donc d'apôtre est plus large que les chiffres 12. Il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert là, qu'il y a dans l'épître aux Romains une femme qui est appelée apôtre. Et là, il y a eu une histoire assez dingue. C'est-à-dire que pour les traducteurs à partir du XVIIIe siècle, etc., dans l'ère logicielle, il était impensable qu'une femme puisse être affublée du titre d'apôtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans la traduction, les noms de la femme, ils l'ont masculinisé. C'était un nom de femme.
Il s'appelait comment ?
Junias.
Comment ?
Junias. Et ils l'ont masculinisé de telle sorte que ça paraisse un homme. Parce qu'une femme apôtre, c'est du non-sens. Classiquement, dans ce qu'on appelle la tradition, si vous aviez dit effectivement aux gens du 18e, du 19e, du 20e, qu'il y avait une femme apôtre, où va-t-on ? On nous change la religion. Ben, tout à fait. Heureusement. Enfin, bref. C'est là où on voit effectivement à quel point.
Et alors, du coup, ça, qu'est-ce que ça entraîne ?
Comment ?
Quand on a découvert qu'il y a une femme qui avait été appelée apôtre,
on
avait dit que c'était une femme apôtre.
Oui, ils ont changé les noms de la femme.
Oui, j'ai compris. Mais derrière, ça a dû faire polémique, tout ça.
Derrière, ça n'a pas fait grand-chose à l'époque, mais là maintenant, oui. Là maintenant, on a traduit comme il faut. Mais, bon, ça, alors là, il faut voir après quels sont les effets que ça peut avoir. Bon, c'est un peu comme c'est toute la question de l'ordination des femmes, etc. On a aussi pas mal de textes dans lesquels il y a des diaconesses.
C'est pas pareil, quand même.
C'est pas pareil. Mais je peux vous dire que du point de vue théologique, il n'y a pas un seul argument correct qui empêcherait d'ordonner prêtre de femme. Pas un.
Au contraire, ce que je voulais te dire, j'ignorais totalement aussi, ça argumenterait dans le sens de l'ordination des femmes.
Mais oui, tout à fait. Non, mais il n'y a pas un argument qui empêcherait l'ordination des femmes comme prêtre.
C'est les hommes qui ont décidé que...
Et puis c'est... Les seuls arguments, mais ce n'en est pas un, c'est le fait que depuis 21e siècle, ou 20 siècles, quoique au début, il faut voir, on a pris l'habitude ou la coutume de ne pas le faire. Mais je peux vous dire, par exemple, enfin là c'est... En 1993, le 5 mai 1993. Je vais à la cato vers midi, mon quart, par là. J'entre dans la cour, c'est un soleil excellent, et je croise le doyen de la faculté de l'époque, Joseph Doré. Après, il a été archevêque de Strasbourg, etc. Bon. Et je salue, ça va ? Il me dit, oui, ça va. Il se tourne, il me dit, non, ça va pas. Il me dit, mais... Qu'est-ce qui t'arrive ? Il me dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Ben, écoute, il regarde une horloge qui est là, sur un mur, et il était midi moins 5. Il me dit, tant pis, je peux aller. Parce que il y avait un texte romain qui allait sortir, et il était interdit d'en parler jusqu'à midi. C'est ce qu'on appelle un embargo. Mais à chaque fois, on vous dit embargo jusqu'à telle date, jusqu'à telle heure. Oui, mais tant pis. Il vient de sortir un document romain de Ratzinger et de Jean-Paul II sur l'ordination des femmes. C'est une catastrophe. Je viens de communiquer au nonce et à l'archevêque de Paris, qui est le chancelier de l'Institut catholique de Paris, que je convoque tous les professeurs pour traiter de la question, de ces documents. Il nous a convoqués, on était là, ceux qui avaient le titre de professeur seulement. Parce que pour avoir le titre de professeur, il faut montrer patte blanche, mais les quatre pattes blanches. Hein. Pas seulement une. Et bon, ben, moi j'étais là, j'étais encore jeune prof, mais enfin, mais bon. Tout ça, rassemblés tous, des biblistes, des théologiens, des historiens, des canonistes, des philosophes, tout le monde. Et on a pris ces textes phrase par phrase. Je peux vous dire, j'ai corrigé beaucoup de textes, de travaux écrits. Bon. Si j'avais dû donner une note à ces textes en fonction de ce qu'on a dit là, il n'aurait pas eu 2 sur 20. Et on s'est dit, on traite uniquement la question de ces textes, on n'entre pas sur le fond. Mais les arguments donnés pour dire que la question de l'ordination des femmes, c'était niette et exclue, il y en avait par exemple un qui était, enfin deux quand même, de la malhonnêteté pure. Ça commençait par dire que ces textes demandaient une adhésion de foi de la part des fidèles. Donc il fallait que croire ça comme les autres vérités du credo, tout en reconnaissant que ce n'était pas une vérité de foi, il disait, mais ça demande la même adhésion. Première remarque, si vous aviez voulu qu'effectivement ces textes relèvent de l'adhésion de foi, il y a toute une série de procédures qu'il faut suivre, que vous n'avez pas suivies. Donc, dégagé. Et notre argument aussi était, alors c'était hallucinant, il disait, saint Thomas d'Aquin a dit qu'effectivement que les femmes ne peuvent pas être ordonnées. Mais il n'est donc pas l'argument de saint Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Saint Thomas d'Aquin dit effectivement, si par hasard et par erreur, on ordonne prêtre une femme qui s'est déguisée en homme par exemple, l'ordination n'est pas valide, parce que la nature de la femme n'est pas celle de l'homme. Autrement dit, que la femme, vous êtes troisième catégorie. Et du coup, mais ça, l'argument, ils ne le disent pas. L'argument de fond utilisé par saint Thomas d'Aquin. Parce que s'ils disent ça, ben vous voyez, les MeToo, les femmes et tout le tralala, ils auraient eu chaud à Rome. Hein. C'était un argument qui était intéressant au Moyen-Âge, au XIIe siècle, mais maintenant, c'est... Il n'y a pas un seul argument théologique qui vaille.
On a parlé de l'argument, de notre argument, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment valable. C'est l'idée de dire que le prêtre, quand il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, il est en fait en représentation.
Une personne à Christ. Donc, premièrement, l'Eucharistie ne se réduit pas au récit de l'institution et d'une. Vous pouvez avoir des célébrations eucharistiques parfaitement valables sans le récit de l'institution. C'est ce qu'on appelle, façon classique, les paroles de la consécration. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, c'est un texte signé par Ratzinger et par Jupitou. Pardon, Jean-Paul II. En juillet 2001, ils ont signé un texte disant « Si des catholiques, bien comme nous, etc., etc., se trouvent dans une situation où ils n'ont pas de prêtres catholiques légitimement ordonnée, etc., etc. Et c'est donc sans Eucharistie. Et dans les environs, il y a une communauté chaldéenne, ils peuvent légitimement participer à l'Eucharistie, ça sera tout à fait valable pour eux. Sauf que la prière eucharistique de Marmarie, qui est celle de Chaldéen, ne comporte pas le récit de l'institution. Donc il n'y a pas de parole de la consécration, mais c'est valable.
C'est valable s'il n'y a pas de prêtre disponible, de prêtre catholique, non catholique.
Mais justement, mais l'exception veut dire qu'effectivement, la condition de l'autre n'est pas indispensable. C'est là, ça le...
L'argument n'est pas un truc absolu, c'est-à-dire de dire, bon, d'accord, c'est une institution, mais il y a bien des hommes, des acteurs grecs qui jouaient le rôle de femme. Donc il n'y a pas de raison...
Non, mais on n'est pas au théâtre. Hein. Ben, je suis désolé, mais l'Eucharistie n'est pas du théâtre.
C'est au sens de représentation...
Oui.
Qui représente le Christ.
Oui. Non, mais... Souvenez-vous que ce n'est pas le prêtre qui célèbre, c'est la communauté qui célèbre, c'est l'assemblée qui célèbre. En fonction de ces célèbres principes, tous célèbrent un président. Alors je me passe mon temps, quand on me dit ben, « c'est toi demain qui célèbre ?» Je dis « non, mais qui c'est qui alors ?» C'est toute la communauté qui célèbre. C'est l'assemblée réunie qui célèbre et un préside. C'est tout. C'est pour ça. C'est pas purement, je sais pas quoi, que tout ce que le prêtre dit, il le dit à la première personne du pluriel. Et la prière eucharistique est rédigée, toutes sont rédigées à la première personne du pluriel. Et quand il dit... Bon.
Ceci est mon sang.
Quoi ?
Quand il dit ceci est mon sang, c'est pas au pluriel.
Mais c'est pas une formule qui n'est pas de lui. Et c'est pas une formule qui n'est pas du prêtre. C'est une formule, c'est une phrase toute faite. Mais ça fait quand il dit quelque chose en dehors des formules citées.
Justement, là, il est en train de citer cette phrase spécifiquement. En sachant que c'est pas lui qui est en train de parler,
mais justement.
Lui physiquement il parle, mais il représente le Christ.
Oui, non, mais il représente le Christ. C'est la communauté qui est le corps du Christ.
Mais c'est évident, mais vous êtes quand même les prêtres représentants du Christ dans une célébration. Je veux dire, la communauté n'a pas à dire si c'est mon corps ou si c'est mon sang. C'est le prêtre lui-même qui est délégué à cette fonction. Donc on ne peut pas s'y reconnaître dans ce que vous dites à l'instant.
Le sacerdoce, dans les Nouveaux Testaments, n'existait pas.
Vous avez eu une formation quand même de... Je ne sais pas combien de temps. On n'est pas tous égaux là-dedans.
Comment ?
On n'est quand même pas tous égaux à la messe.
On n'est pas tous exactement égaux, même si le rôle n'est pas le même. Il faut quand même être... Ce qui compte... Bon, là, il faudra venir avec un karcher, mais alors super puissant. Hein. Mais quand même, on est, ce qui compte, c'est le baptême. Sinon, vous pouvez lire et relire l'épître aux Hébreux et la méditer. Bon, je vais continuer parce que là, ça nous dévie un peu de notre affaire.
Mais ce que vous dites est tout à fait essentiel.
Ah ben, tout à fait.
Quand vous dites qu'il faudrait faire un coup de karcher puissant, je suis bien d'accord avec vous.
Moi aussi.
Oui, non, mais ça c'est certain, mais bon.
C'est dans le sens de
Vatican II. Oui, non, mais enfin, je me souviens très bien que l'année dernière, par exemple, on avait passé toute l'année dans la communauté dont je fais partie. On a eu 4 matinées des dimanches justement à traiter cette question. Et on avait travaillé surtout à partir de l'épître aux Hébreux, parce qu'en dehors de l'épître aux Hébreux, jamais dans le Nouveau Testament, on n'utilise pas la terminologie ni la référence sacerdotale, même pas pour le Christ. La seule fois où, ici ou là, il y a des prêtres qui apparaissent, c'est pour les critiquer. Les seuls textes qui fonctionnent à bloc dans les catégories sacerdotales dans le Nouveau Testament, c'est l'épître aux Hébreux, pour dire que le seul prêtre que nous avons, c'est le Christ. Et qu'il n'y en a qu'un. Un. C'est tout. Mais en même temps, historiquement parlant, Jésus n'a pas été prêtre. Mais ce qu'il a fait revient à réaliser ce que les prêtres de l'Ancien Testament étaient censés faire. Mais lui, il n'a fait aucune action, aucun acte qui relève de la fonction sacerdotale. Mais on peut dire que les effets de ce qu'il a fait, qui n'a rien à voir avec le sacerdoce, a produit les effets de ce que le prêtre dans l'Ancien Testament était censé faire, c'est-à-dire faire la communion entre Dieu et le peuple.
Donc le karcher devrait supprimer le sacerdoce.
Mais il n'en a pas.
Mais donc il n'y en a pas, sacerdoce, ça n'existe pas.
Les sacerdoces, oui, dans les Nouveaux Testaments, ça
dans,
n'existe
dans
pas.
Le catéchisme catholique, ça n'existe ou pas.
Je ne nie pas que nous sommes les héritiers d'une ré-sacerdotalisation du Nouveau Testament qui a commencé au 4e siècle.
Oui, mais avant, il y avait des tas de formules, les gens n'étaient pas nécessairement d'accord entre eux.
Et alors ?
Eh bien, il fallait bien qu'il y ait une vérité qui soit reconnue.
Une vérité, qu'il y ait une communion.
Oui. Donc il fallait bien une autorité qui reconnaisse.
Mais l'autorité n'est pas forcément sacerdotale.
Non, je n'ai pas dit que la vérité.
L'autorité.
Est sacerdotale. Mais il doit bien y avoir.
Mais ça, c'est une gestion de la communauté, tout à fait.
A reconnu l'ordination des prêtres, la notion de prêtre existe bien, que je sache. Donc c'est ce que je cherchais à comprendre simplement. Je suis ni pour ni contre. Mais quand vous dites carchérisation, vous voulez dire carchérisation, y compris, par exemple, vous seriez d'accord pour la suppression de la notion de prêtre, puisque vous dites, en fait, ça n'existe pas.
Enfin, de facto...
Est-ce que j'ai bien compris ?
Oui, tout à fait. Non, c'est assez simple quand même. La gestion et l'animation des communautés chrétiennes sont... disons, donné à un certain nombre de gens depuis toujours, qui a varié d'alors, passablement, et on a donné ces titres de prêtre à ces personnes qui ont été
ordonnées,
si vous voulez, ou désordonnées, si vous voulez, mais qui n'a rien à voir avec la nature du sacerdoce en tant que tel. Est-ce que vous avez entendu parler du sacerdoce de fidèles ? Oui.
Bien sûr.
Bon,
sacerdoce commun. Bon, c'est pas la même chose.
Ah ben justement, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant et plus fondamental ?
J'en sais rien.
Le baptême ou le sacerdoce tel que vous dites ?
Bah, le baptême, puisque sans baptême, il ne peut pas y avoir autre chose. C'est évident. Mais pas seulement
une question chronologique.
Oui, mais est-ce que ça veut... Je suis d'accord. Mais est-ce que ça veut dire... C'est pas parce que le baptême est le sacrement le plus important qu'on doit carcériser les autres. Enfin, pourquoi pas, moi je suis ouvert à tout, hein, à toutes les carcérisations, mais juste je veux comprendre jusqu'où va la carcérisation.
Mais la carcérisation va dans le sens qu'effectivement, que du point de vue de la foi chrétienne, du point de vue du Nouveau Testament, il n'y a pas de fonction sacerdotale, parce que la fonction sacerdotale, c'est le Christ, il n'en a qu'un. Et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Bon, reste, qu'après. Inventé par l'Église et les.
Bah, c'est-à-dire que bon, la gestion des communautés et les célébrations sont indispensables. C'est pas une question de c'est une question de bon sens. Mais à partir d'un certain moment, on a pris les catégories, disons, disponibles, on les a appliquées, et on a fait une religion comme les autres, avec des prêtres, machin, ceci, etc. etc. Donc, qui présidait l'Eucharistie au premier temps?
Que
les de toute façon, toujours le Christ.
Comment?
Toujours le Christ au premier temps.
Voilà, d'accord, mais qui était le président de la célébration?
Les actes des apôtres, par exemple.
Je sais pas.
Oui, là, c'est pas très clair. Dans les actes des apôtres, bon, mais historiquement parlant, on peut dire qu'il y avait quand même des célébrations qui se faisaient sans quelqu'un de spécifique. C'était par exemple le père de famille dans la maison où on s'est retrouvé. Par exemple.
Mais justement, parce que comme il y avait différentes formules, il fallait bien unifier tout ça pour rechercher la vérité. Et l'Église, au 4e siècle, comme l'Église d'ailleurs, en fait, a décidé
de mettre de l'ordre.
En concile.
Non, ça ne relève pas d'une.
Oui, d'accord. Mais il y a eu.
C'est une question. Des clarifications de la vie quotidienne,
oui.
Mais par d'accord. Nécessité, c'est tout. C'est pas de l'ordre. Bon, enfin, bref, ça nous laisse un peu out.
C'est quand même
on va pas, disons, emmerder tout le monde avec nos histoires.
Cette question est évoquée dans le cadre du cours.
Comment?
Est-ce que cette question est évoquée dans le cadre du cours cette année ou l'année prochaine?
Théoriquement, c'est l'année prochaine, au premier trimestre, dans le cours de ecclésiologie.
D'accord.
Les ministères doivent être traités là. Mais vous aurez aussi l'occasion d'en parler dans le deuxième trimestre, la théologie des sacrements. De façon très importante. Parce que l'ecclésiologie, d'une certaine façon, ça peut être, on ne dit pas que c'est ça, mais le risque de l'ecclésiologie, c'est de rester trop dans l'organisation. Tandis que, a priori, la théologie des sacrements peut aller plus à fond que l'ecclésiologie. Peut. Bon, le prof que vous aurez l'année prochaine, il est excellent, donc, pour les sacrements, surtout, ne le ratez pas. Même s'il n'est pas prêtre.
Surtout,
c'est une femme, il est frère.
Il est que moine.
Je pense que c'est une femme.
Troisième classe. Bon. De la même façon qu'effectivement la question de l'apôtre, je vous ai dit, a eu quand même quelques problèmes dans l'histoire, etc. Et tout le monde n'est pas d'accord, Luc et Paul, etc. Ben, enfin, c'est pas la peine que le sang coule à flot. Le mot église, ça a été à peu près la même histoire. Apôtre, église, etc. Les mots église est un terme grec, comme vous savez, ecclésia, qui était connu dans la langue normale, mais qui était peu utilisé et était utilisé surtout dans la dimension politique. Disons, la commune ou quelque chose comme ça. Les mots « église » et « plus » dans le sens chrétien correspond à un mot de l'Ancien Testament qui est le mot « kal » qui désigne et veut dire l'assemblée qui célèbre ou qui s'est réunie pour la prière, etc. L'assemblée liturgique, la communauté, si vous voulez. Bien entendu, ce qui veut dire qu'effectivement, les mots « église » est autre chose que l'image que nous avons ou que... Surtout dans la vie quotidienne, l'Église, c'est les prêtres, c'est les évêques, l'Église. Surtout, après Vatican II, on a pris conscience qu'à l'Église, nous sommes tous. Et il y a des points de vue, je me souviens très bien, en 67, avant mai 68, dans mon lieu, on avait eu des gros... conflit avec l'évêque. Et je me suis dit une fois, la délégation des séminaristes, parce qu'on était à première ligne, la délégation des séminaristes, d'autant plus qu'on avait lu et travaillé les textes du concile, nettement mieux que notre évêque d'ailleurs, et on était allé le voir, je ne sais pas quoi, et à un moment de la discussion, quelqu'un de notre délégation nous dit, mais enfin, l'Église, nous sommes tous. Et l'évêque répond, oui, mais certains plus que d'autres. Ce qui veut dire qu'il n'avait strictement rien compris au public, ni de l'ecclésiologie, ni du concile. Il était toujours, l'Église, c'est la société parfaite, dirigée par les évêques, etc. Donc c'était quand même... L'Église, c'est donc la communauté des croyants. Et Paul, de ce point de vue, est très net dans les adresses qu'il donne ou qu'il met dans les épîtres. Très souvent, il dit comme ça, par exemple, dans la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2, Paul... apôtre du Messie Jésus par dessein et appel des dieux, et Sosthène, notre frère, à l'Église qui est à Corinthe. C'est-à-dire à la communauté des croyants qui est à Corinthe. Et la même chose, vous avez dans la deuxième aux Corinthiens. Paul, apôtre du Messie Jésus par dessein des dieux, et les frères Timothée, à l'Église des dieux qui est à Corinthe, et à tous les consacrés des Grèces. Là, c'est très clair que c'est la communauté des lieux. Enfin, on peut dire, Paul a l'église qui est à Paris, ou l'église qui est à Versailles, ou à Privas, ou à Cherbourg. La foi et les témoignages des apôtres et des disciples font partie de la révélation objective, du contenu même de la révélation. Pourquoi ? Parce que ce sont les seuls qui peuvent faire les ponts entre nous et Jésus-Christ, en tant qu'ils sont les témoins du ressuscité. C'est eux qui sont derrière les Nouveaux Testaments, les textes du Nouveau Testament, qui est l'accès premier à Jésus-Christ. Je dis bien premier, pas le seul. Ce dont ils témoignent, c'est ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et reçu. Et surtout, c'est la manière dont ils ont compris ce qu'ils ont vécu. Et comme disait le texte de Jean, l'Esprit Saint vous sera remémoré ce que je vous ai déjà dit. L'épisode des marchands du temple dans l'évangile de Jean est symptomatique de ce point de vue. Bon, ils cherchent les marchands du temple, et le texte termine au chapitre 2, verset 22, disant « Lorsque Jésus s'éleva d'entre les morts, les disciples crurent. » Pour comprendre le sens et adhérer à ce qu'il a fait quand il a chassé les gens du temple, il a fallu attendre que Jésus se lève d'entre les morts. Donc, l'expérience de la résurrection, c'est dit discrètement. Bon, avant que vous tombiez dans les sommeils les plus profonds et que Anne mangueule à haute dose, on fait une petite pause.